Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le manuel est un court traité de philosophie pratique attribué à Épictète, maître stoïcien grec ayant enseigné à Rome puis à Nicopolis au début du IIe siècle. Le texte ne fut vraisemblablement pas rédigé par Épictète, lui-même son disciple arien, en a composé une sélection resserrée à partir de son enseignement. Aussi appelé Enchiridion, ce livre appartient au genre de la maxime et de la directive morale plutôt qu'à celui du traité systématique. Son objectif est de former le jugement afin de rendre possible une existence libre, cohérente et moins soumise aux événements. Le manuel examine la dépendance aux biens extérieurs, la crainte, le désir, les relations sociales, le devoir et la mort. Sa brièveté ne signifie pas simplicité psychologique, chaque précepte repose sur une discipline exigeante des représentations et des choix. Le livre demeure une porte d'entrée majeure vers le stoïcisme impérial. Parce qu'il condense une éthique de l'action quotidienne, sans promettre de supprimer les difficultés réelles de la condition humaine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer rigoureusement ce qui relève de notre choix. Le principe directeur du manuel sépare ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Relève de nous les jugements, les impulsions, les désirs, les refus et, plus largement, l'usage que nous faisons de nos représentations. Ne relève pas entièrement de nous le corps, les possessions, la réputation, les charges publiques et les actes des autres. Cette distinction ne nie ni l'importance pratique de la santé ou des liens sociaux, ni le devoir d'agir dans le monde. Elle vise plutôt une erreur précise, prendre un bien exposé aux circonstances pour le fondement de sa liberté. Si une personne exige que son statut, son corps ou autrui se conforme à sa volonté, elle livre sa tranquillité à des causes instables. Épictète déplace donc le centre de gravité éthique vers la faculté de choix. Le lecteur est invité à intervenir là où une responsabilité est effectivement possible, puis à accueillir sans servilité ce qui échappe à son pouvoir. Cette discipline évite deux confusions, opposer la plainte impuissante devant le hasard et la passivité déguisée en sagesse. Elle demande de préparer une action raisonnable, mais de ne pas faire dépendre sa valeur morale du résultat obtenu. La liberté stoïcienne est ainsi une indépendance du jugement, non une domination totale des circonstances. Deuxièmement, transformer le désir pour ne plus faire du monde une obligation. Dans le manuel, le désir est une force qui peut rendre l'individu vulnérable lorsqu'il vise des objets incertains. Désirer avec absolu la richesse, les honneurs, la longévité ou l'approbation revient à donner à des éléments extérieurs le pouvoir de produire ou de détruire le bonheur. Épictète ne recommande pas une insensibilité brute. Il demande un travail sur la forme du désir, vouloir d'abord ce qui est moralement juste et consentir à la réalité de ce qui arrive. Cette orientation est inséparable du refus, car fuir à tout prix la maladie, l'échec ou la mort conduit au même asservissement que les poursuivre avec avidité. Le texte propose donc une économie affective fondée sur la lucidité. Avant de s'attacher à une chose, il faut reconnaître son caractère périssable et son absence de garantie. Avant de rejeter une épreuve, il faut examiner si le mal se trouve dans le fait lui-même ou dans le jugement porté sur lui. Une telle méthode ne transforme pas la perte en événement agréable. Elle empêche cependant que la perte soit automatiquement interprétée comme une ruine de soi. Le stoïcisme du manuel cherche moins à satisfaire tous les désirs qu'à rendre le désir compatible avec une vie droite et avec la fragilité constitutive des choses humaines. Troisièmement, examiner les représentations avant de leur donner assentiment, le manuel accorde une place décisive aux représentations. C'est à dire aux impressions immédiates que produisent les choses et les événements. Une insulte peut susciter la colère, une maladie la peur, une réussite la vanité, mais l'impression première ne constitue pas encore un jugement réfléchi. Le travail moral commence au moment où l'esprit peut suspendre son assentiment et se demander ce que la situation signifie réellement. Épictète insiste ainsi sur la différence entre un fait et l'évaluation ajoutée à ce fait. Perdre un objet, recevoir une critique ou rencontrer un obstacle sont des occurrences. Les déclarer insupportables, humiliantes ou catastrophiques relèvent d'une interprétation. Cette analyse ne prétend pas que toute souffrance est imaginaire. Elle identifie le point où la personne peut éviter d'amplifier une difficulté objective par des croyances de maîtrise, de possession ou de prestige. La pratique exige de nommer correctement ce qui se présente et de ne pas réagir comme si chaque impression était une vérité. Elle suppose attention, répétition et examen de soi, plutôt qu'une formule apaisante. Par cette discipline, le lecteur apprend à répondre avec discernement au lieu de se laisser entraîner par une émotion initiale. La sérénité recherchée est donc l'effet d'un jugement exercé, non celui d'une indifférence automatique. Quatrièmement, assumer les rôles sociaux sans dépendre du regard d'autrui, l'éthique du manuel ne se réduit pas au retrait intérieur. Épictète présente chacun comme occupant plusieurs rôles enfants, parents, frères, citoyens, voisins ou membres d'une communauté. Ces relations entraînent des obligations concrètes, notamment la justice, la modération et la capacité de supporter certains défauts chez les autres. Le texte ne conseille pas de contrôler les comportements d'autrui, entreprise ou à la frustration, mais de déterminer quelle conduite convient à son propre rôle. Cette perspective donne une structure à l'action sociale, il faut agir avec loyauté, sans faire de la reconnaissance reçue la mesure de son acte. Une personne peut accomplir son devoir et être mal comprise, négligée ou lésée. Ces réactions ne retirent pas leur valeur à la décision juste. Le manuel traite aussi la réputation comme un élément extérieur. Chercher à paraître savant, important ou irréprochable peut détourner de l'amélioration réelle du caractère. Épictète privilégie donc la cohérence entre les principes professés et les choix effectifs. Cette exigence ne légitime ni la dureté ni le mépris des liens. Elle invite à servir ses responsabilités sans transformer les proches, les collègues ou le public en arbitre de sa paix intérieure. La sociabilité stoïcienne repose sur le devoir choisi lucidement, non sur la dépendance affective ou la quête de prestige. En dernier lieu, consentir à la finitude et pratiquer une préparation quotidienne, le manuel rappelle fréquemment que les êtres, les biens et les situations sont temporaires. Cette conscience de la finitude concerne autant les objets ordinaires que les relations les plus précieuses et la vie elle-même. Son but n'est pas de banaliser le deuil ou de diminuer l'attachement humain. Épictète cherche à empêcher la confusion entre aimer une réalité et réclamer qu'elle soit soustraite au changement, en se souvenant qu'une chose est prêtée par le cours du monde plutôt que possédée sans réserve. Le lecteur peut la recevoir avec reconnaissance et la perdre sans s'effondrer moralement. Cette attitude s'inscrit dans une vision stoïcienne de l'ordre universel, souvent formulée comme acceptation de ce qui arrive. Toutefois, le consentement ne signifie pas l'approbation de toute injustice ni l'abandon des obligations. Il signifie que, après avoir délibéré et agi selon ses principes, une personne ne traite pas l'issue comme une atteinte à son pouvoir intérieur. Le caractère concret du manuel apparaît dans ses exercices brefs, anticiper les contrariétés, réduire les prétentions du désir, se rappeler ses devoirs et vérifier ses jugements. La philosophie devient une préparation régulière au revers, à la séparation et à la mort, afin que la conduite juste demeure possible lorsque les circonstances deviennent difficiles. En conclusion, le manuel convient aux lecteurs qui cherchent une introduction directe à la morale stoïcienne, mais aussi à ceux qui veulent interroger leur réaction face à la frustration, au jugement social, à la perte ou à l'incertitude. Sa lecture demande toutefois une attention active. Les formules sont brèves, parfois abruptes, et gagnent à être reprises lentement plutôt qu'à être consommées comme des conseils rapides. Le bénéfice pratique du texte réside dans une méthode de tri, distinguer les faits des interprétations, les responsabilités réelles des exigences impossibles, et le devoir personnel du besoin de reconnaissance. Son bénéfice intellectuel est de montrer que le stoïcisme est une théorie exigeante de la liberté morale, non une invitation vague au calme ou à la résignation. Comparé aux ouvrages contemporains de développement personnel inspirés du stoïcisme, le manuel se distingue par sa concision, son absence de promesses thérapeutiques et son ancrage dans une conception complète de la vertu. Comparé aux entretiens, également transmis par Arien, il offre une forme beaucoup plus condensée et immédiatement mémorisable, au prix de moins de contexte et de démonstration. Sa force particulière vient de cette densité, il ne propose pas de maîtriser le monde, mais d'exercer la part de jugement sans laquelle aucune stabilité intérieure ne peut durer. Il constitue ainsi un texte bref, rigoureux et durable, particulièrement utile pour une lecture accompagnée de notes ou de commentaires. Si vous souhaitez soutenir Épictète, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.